Les livres ont la parole, une émission mensuelle chaque deuxième mercredi du mois de 16h30 à 18h. On y parle de livres et de ceux qui font les livres, auteurs, imprimeurs, éditeurs, libraires, lecteurs. Une émission proposée, préparée et présentée par Jean Daroux sur Fréquence Mistral. Et c'est tout de suite. Bonjour Jean et
bonjour. Bonjour Odile, merci. Donc aujourd'hui, on reçoit un éditeur, hein, et pas n'importe lequel, parce que c'est Pierre Coste de C'est-à-dire Édition, et on verra qu'il a bien d'autres cordes à son arc. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean, bonjour Odile.
D'accord, donc on va commencer, puisqu'on verra qu'il est aussi choriste et qu'il est très amateur de musique, on va commencer tout de suite par écouter un petit morceau de musique et on retrouve Pierre Coste tout de suite après. Pierre, bonjour. Donc, on va parler tout de suite de votre travail d'éditeur, mais je voulais revenir sur cette chanson, Bella Ciao, par Giovanna Marini. Alors, vous êtes choriste, hein, j'ai cru comprendre, vous chantez dans deux chorales.
Je chante dans deux chœurs, dans les Alpes, ceux du Centre d'art lyrique des Alpes du Sud, qui avait été fondé par Philippe Boudriot, le regretté Philippe Boudriot, et qui est dirigé maintenant par Pierre Bord. Mmh. Et à Aix, l'ensemble vocal Opus 13. D'accord, de oui. Marie-Hélène Coulon.
Alors la musique, en dehors du livre, c'est une passion. Vous l'avez toujours été, passionné de musique, intéressé par la musique, les voix
Oui, toujours passionné. Mes parents ont eu la bonne idée de me former un peu de force dès l'âge de 5 ans. J'ai appris à lire le solfège en même temps que les lettres. J'ai découvert puis redécouvert la musique chorale à 18 ans et puis à nouveau à 45 ans.
D'accord.
Et depuis je la pratique et dans mes activités professionnelles j'ai toujours revendiqué auprès de mes équipes que quand j'allais chanter je décrochais et que c'était plus la peine qu'ils insistent, je n'étais plus pour eux pendant X heures ou X jours quand il y avait des week-ends.
D'accord. Ok. Alors ça, c'est la partie musique. On retrouvera un certain nombre de morceaux que vous avez amenés, que vous allez nous faire découvrir. Alors, vous avez parlé de Giovanna Marini, qui est cette femme qui chantait Bella Ciao.
Donc, c'est une Italienne qui s'est passionnée pour la musique populaire et notamment celle des femmes de la plaine du Pô, avec ses voix très très âpres et très intenses. Et donc, elle a fait, dans ce que j'ai compris de sa vie, un travail de collecte, mais en même temps d'apprentissage. Et ensuite, elle l'a restitué, elle a formé autour d'elle, tout au long de sa vie, je pense qu'elle doit approcher les 80 ans, des disciples de générations successives qui se sont passionnés pour cette approche de la musique.
Mmh. D'accord. Alors, en parlant de maître et de disciple, vous avez commencé une carrière d'éditeur relativement tôt, parce que, si je me souviens bien, il s'agissait d'un livre de votre père.
Oui, mon père avait écrit un livre qui s'appelle Aix-en-Provence et le pays d'Aix, qui est un guide de découverte touristique de la ville et de la campagne autour. C'est un livre qui a été en place dès 1955, qui a eu à son époque deux éditions. Mon père est mort en 1974 et le livre était en déshérence et donc j'ai voulu le reprendre. Et à ce moment-là, j'ai été mis en contact avec Hubert Nissen, à l'époque était cartographe, mais était en train de penser à devenir éditeur, et qui m'a, dans un premier temps, appris ce que j'ai compris être par la suite le secrétariat d'édition, c'est-à-dire comment regarder un texte de façon critique, et imaginer quels seront les rapports des lecteurs avec ce texte. Mmh. Et qu'est-ce que le personnage intermédiaire qu'est le secrétaire d'édition peut apporter comme amélioration. En l'occurrence, il m'a demandé d'écrire des phrases plus complètes que ce qu'avait fait mon père, qui était quelqu'un de très modeste et qui écrivait presque en style télégraphique. Et là, Hubert m'a obligé à faire des paragraphes, à penser les sous-titres, etc.
D'accord.
Et lorsque ce travail sur le texte a été fait, je lui ai demandé s'il me ferait la mise en page, bien qu'il ne dût pas être l'éditeur, puisque c'était plutôt Édissud de Charlie Chaudreuil qui avait accepté de porter le projet d'édition. Et c'est là que j'ai reçu mes premières leçons de mise en page et que j'ai appris à distinguer, par exemple, un caractère à empattement d'un caractère sans empattement et pourquoi il faut faire une notice de machine à laver avec un Helvetica et un roman avec un Garamond et pas l'inverse, parce que si on fait l'inverse, la notice de machine à laver en Garamond ne paraît pas sérieuse et le roman en Helvetica ne paraît pas lisible.
D'accord. Donc ça, c'était le premier donc apprentissage du secrétariat d'édition et du secrétariat donc et de la mise en page. Bon, et après, ça vous a incité à démarrer dans ce métier ou les choses sont venues plus tard?
Les choses sont venues plus tard. Quelques années, Aix-en-Provence et le Pays d'Aix, dans cette troisième édition, a dû sortir en 80. Et un an après, j'ai quitté mon métier de journaliste à l'agence France Presse, que je pratiquais depuis 17 ans. Nous avions envie, avec ma femme, de nous installer en Haute-Provence. Et j'ai eu l'opportunité de prendre en main le projet de Salagon qui se mettait en place et d'en devenir directeur. Et comme l'association Alpes de Lumière, qui portait le projet, a également une revue, très rapidement, j'ai eu à me mêler de la revue et de façon de plus en plus active. Et en 1987, lorsque j'ai pris mes distances par rapport à la gestion de Salagon, telle que l'envisageait Alpes de Lumière, et que je suis allé exercer mon métier de conservateur à l'autre bout du département, dans la vallée de l'Ubaye, je suis néanmoins resté, il fallait bien nourrir la famille, secrétaire des éditions Alpes de Lumière.
Alpes de Lumière. Vous avez été combien de temps au Alpes de Lumière?
Alors, j'ai eu ce rôle de secrétaire d'être très près de ces éditions de 1987 à 2005.
Oui. Et il y a une quantité de livres qui sont sortis pendant cette période. Moi, j'en ai un certain nombre. Je veux dire, c'est un travail considérable et absolument important pour la région.
Oui, ça a été une période très florissante. On faisait un duo très solidaire avec Guy Baruol, qui était le président sortant d'Alpes de Lumière et qui était le directeur des éditions, et moi qui en étais le secrétaire. Ensuite, on a embauché le jeune Emmanuel Janté, qui maintenant est gérant des éditions, c'est-à-dire ouais, ouais. Donc il y a une continuité qui se fait. Et c'est vrai que je suis très fier des livres qu'on a produits à cette époque-là, qui ont gagné en taille. On a été plus audacieux au niveau des projets, tout simplement matériels, le nombre de pages, la couleur. J'ai beaucoup poussé à ce qu'on lance une collection scientifique qui s'appelait Les Cahiers de Salagon et qui ont permis de produire, à côté des volumes qu'on appelait de la revue, qui étaient des livres plutôt de bonne vulgarisation, d'autres livres plus pointus sur des thèmes historiques, archéologiques ou ethnologiques.
Oui, non, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai été énormément, ça m'a beaucoup marqué, quoi, la présence de cette de Alpes de Lumière, c'est tout le travail qui était là. C'est, en particulier quand on vient d'ailleurs pour comprendre cette région, je veux dire, c'est une Bible en petits morceaux dans laquelle on se nourrit. C'est assez étonnant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup nourri, quoi.
Et alors, ce que j'aimais beaucoup dans la démarche de Pierre Martel, l'inventeur, on va dire, d'Alpes de Lumière, même s'il a toujours eu un discours en disant que ça avait été le fruit d'un collectif, mais au sein de ce collectif, il était quand même la personnalité majeure, c'est que Pierre Martel croisait les disciplines sans aucun scrupule. Il était tout le contraire d'un spécialiste. Il était un passionné tous azimuts. Et qu'en cela, je retrouvais ce que j'avais appris avec mon père, Jean-Paul Coste, qui lui enseignait à ses 6e et 5e du lycée minier plusieurs disciplines à la fois. C'est un débat qu'on voit aujourd'hui, actuellement, et avec des grands gémissements et des grandes envolées dans un sens et dans l'autre. Mais pour moi, ça me paraît complètement élémentaire.
Le prof de tous français, les instituteurs ont voilà. toujours enseigné toutes les disciplines.
Voilà, et le prof de français de 6e ou de 5e enseigne aussi le latin, bien entendu, mais aussi l'histoire, la géographie, éventuellement un peu de sciences nat, et d'autre part, emmène ses élèves sur le terrain et leur fait découvrir très concrètement le territoire, leur fait lire le paysage. Or, le paysage, il est fait de tout. Il est fait de la géologie, du relief, de la botanique, des sciences humaines, de l'ethnographie, etc.
Oui, oui.
Et là, d'avoir ça dans ces volumes d'Alpes de Lumière m'enchantait et faisait que j'étais d'autant plus attaché à défendre cette vision-là par rapport à des tentatives de faire des volumes trop spécialisés.
Bien, et si on écoutait un peu de musique, alors Vivaldi, vous avez choisi Vivaldi, pour quelle raison?
Justement, c'est une pièce qui a été interprétée par l'ensemble vocal Opus 13, dirigé par Marie-Hélène Coulon, avec un auteur italien. Et c'est l'occasion d'ailleurs de faire un peu de pub, le 30 mai à Cérest, aux confins sud-ouest du département. Opus 13 donne à 17h30 un concert sur un programme italien un peu antérieur à Vivaldi, plutôt du fin 16e, début 17e.
Il y a aussi 5 et 7 juin.
Et le même programme, les 5 et 7 juin à Aix, à la cathédrale.
Cathédrale Saint-Sauveur. On écoute Vivaldi ? Donc par le groupe Opus 13 dans lequel vous intervenez.
Oui.
Ouais. Thank you. Donc on retrouve Pierre Coste, dont on a entendu la voix au milieu de ce chœur opus 13. Alors vous expliquez hors antenne que c'est un chœur dans lequel il y a deux tiers d'hommes et...
deux cinquièmes d'hommes et trois cinquièmes de femmes. Ce qui est assez rare,
oui.
Parce que souvent dans les chœurs et dans les chorales, les hommes sont très minoritaires.
D'accord.
Mais là, il y a une constance du travail de Marie-Hélène pour attirer à elle des gens. Elle recrute, et du côté d'ailleurs alpin, aussi bien Philippe Baudriot, jadis, que Pierre Bord, recrute des voix plus que des musiciens bardés de solfège, etc.
Oui, oui.
Ce qui les intéresse, c'est ça, c'est
oui,
que
mais...
les gens... puissent sortir la voix, leur voix et être prêts à la perfectionner, suivre des cours de chant. Et puis le solfège sera un supplément apprécié mais pas indispensable.
Il faut d'abord avoir une voix. Voilà. D'accord. Donc alors, après la chanson, on va revenir à votre carrière d'éditeur. Donc il y a eu toute cette période à Alpes de Lumière. Et puis après, mais vous êtes parti d'Alpes de Lumière.
Alors,
pour créer une autre maison d'édition.
Il y a eu plutôt une transition qui s'est faite à cause d'un nouveau procédé pour faire des livres qui s'appelle l'ordinateur.
D'accord.
J'avais travaillé jusqu'alors avec la machine à écrire quand j'étais étudiant en troisième année de fac pour arriver à militer et ne pas rater mes examens. Pour autant, j'avais pris en main le secteur Polycop de la Corpo UNEF d'Aix je faisais mes mises en page avec une machine à écrire. Très soigné, les notes dans les marges, donc déjà des choses que j'ai faites par la suite, mais cet outil quand même assez contraignant, où quand on fait une faute, ben, c'est compliqué à corriger, etc.
Oui.
À la fin des années 80, les Mac permettaient de faire de la très belle typographie. Même quelqu'un comme Hubert Nissen, qui était extrêmement exigeant sur la qualité typographique, s'est rangé à la solution Mac. Voilà. Et les Mac valaient très cher, le prix d'une bagnole d'occasion et une imprimante, le prix d'une bagnole neuve. Alpes de Lumière ne pouvait pas ou ne voulait pas m'en payer un. Et donc, avec ma femme, on a franchi le pas. On a acheté l'équipement, les logiciels, etc. Et comme il fallait avoir un support économique, on a monté une société, la SARL Atelier, c'est-à-dire, qui est toujours la structure juridique, qui avait comme projet de faire les livres des autres.
D'accord, c'était d'abord un atelier de mise en page.
D'où le nom, c'est-à-dire, vous avez quelque chose à dire, ben,
voilà,
on va vous aider à le dire. Voilà. Et l'atelier, c'est-à-dire, a fait pendant 15 ans les livres d'association, ceux d'Alpes de Lumière. Donc,
vous avez continué à faire le travail pour Alpes de Lumière.
Je fixais le cadre de la mise en page, et puis c'est Mireille Coste qui faisait l'exécution. Et dans la foulée, on a fait également les livres de l'association Sabens de la Valais, dans la vallée du Bail, où je travaillais, puisque j'étais devenu conservateur du musée. On a fait les livres de l'association Freinet Pays des Morts. À une époque assez éphémère et tumultueuse, on a fait ceux de la Société scientifique et littéraire, mais ceux qui sont abonnés à cette revue voient très bien la transition entre la précédente mise en page et puis... celle de l'atelier, c'est-à-dire. Toujours dans cette même exigence de qualité du contenu, faire l'intermédiaire entre l'auteur ou les auteurs pour une revue et les lecteurs, garantir auprès des lecteurs que les auteurs sont respectés et garantir aux lecteurs des textes lisibles. Et si possible, bien mise en page.
D'accord. Donc, c'est-à-dire atelier donc de mise en page. Et puis, d'un seul coup, vous faites des livres.
Et puis,
pourquoi ?
Alors, on avait ce projet-là dans la tête qui, pas dans notre tête à Mireille Coste et à moi, mais plutôt dans celle d'Emmanuel Janté,
d'accord,
dont on était très proche et qui lui était...
Et vous avez rejoint à ce moment-là ou...
Oui.
Dans l'atelier.
Physiquement, la machine qui faisait les bouquins était chez nous.
D'accord.
Était dans les locaux de l'atelier. Mmh. Donc,
Mais Emmanuel, lui, il faisait déjà de l'édition ou pas ?
Alors, Emmanuel, lui, il a une formation d'historien et d'historien de l'art, mmh. qu'il a complété par un DUT métier du livre à Grenoble.
Métier du livre. Mmh.
Il nous a demandé, atelier c'est-à-dire, à faire un stage de fin d'études chez nous, et on lui a proposé de faire une étude des lecteurs de la revue Alpes de Lumière.
Mmh.
Ce qui lui a donné une connaissance très fine de ses lecteurs et de leurs intentions, de leurs attentes. Comme on s'entendait très bien, je l'ai fait embaucher par Alpes de Lumière.
D'accord.
Donc il a travaillé pendant 6 ans, 8 ans pour Alpes de Lumière. Et puis les choses se sont dégradées. Mon bénévolat à Alpes de Lumière n'a plus été accepté, donc dont acte. Et Emmanuel lui-même s'est retiré. Et avec nous, à vrai dire, se sont retirés 3 auteurs dont les textes étaient prêts, mais qui ont soudain été jugés trop gros, trop complexes, illisibles par le comité d'édition d'Alpes de Lumière. Et donc les auteurs se sont tournés vers nous en nous disant mmh. « Mais vous nous avez dit que c'était excellent ».
Oui.
Et là, brusquement, nous ne sommes plus. Et on leur a dit, ben, banco, on vous édite.
Ah oui.
Et on a commencé comme ça, par un gros volume de Gérard Le Boucher sur Gordes de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe. La décroissance, puis la reconstruction d'un village en Moyenne-Provence. Un gros livre de 450 pages qui a été bien accueilli.
Alors ça, c'était quand ?
Et
il y a combien de temps ?
Ça, c'est le 2007.
2007. Premier livre, 2007.
Premier livre, 2007. Voilà, il va y avoir d'ailleurs... il y a eu un deuxième livre sur Gordes, Le temps des artisans, et un troisième qui va sortir cet été, Gordes, Le temps des artistes, où Gérard Le Boucher montre la transformation de Gordes entre les deux guerres et puis après la guerre avec des artistes, des écrivains, des photographes qui découvrent Gordes.
Mmh.
Le deuxième livre, c'était un jeune passionné d'histoire militaire qui avait suivi le journal de guerre d'un officier du 15e Corps,
oui. De
1914 à 1916. Alors, le premier livre, Gordes, nous permettait de définir une collection, un territoire et des hommes. Et le deuxième livre, une autre collection qui était dans nos avant-projets, 1000 mots chuchotés, où des gens, d'une manière ou d'une autre, racontent leur vie.
Mmh.
Mais ce témoignage de cet officier nous a fait toucher également la Première Guerre mondiale.
Oui.
D'autres corpus de la Première Guerre mondiale nous ont été proposés, y compris une étude de synthèse sur le 15e Corps,
le légende
du 15e Corps.
La légende noire du 15e Corps.
Ce qui fait que nous avons actuellement 7 titres sur la Première Guerre mondiale et qu'extérieurement nous sommes identifiés peu à peu comme un éditeur de la Première Guerre mondiale.
Mmh. Ça, c'est...
Domaine dans lequel Emmanuel a acquis une véritable compétence historiographique, mais malgré tout, dont nous aimerions sortir aussi pour avoir d'autres façons, d'autres titres qui illustraient cette idée, 1000 mots chuchotés.
Là, la légende noire du 15e corps, donc de Maurice Mistre, c'est dans la collection Un territoire et des hommes.
Oui, parce que là, on est dans une synthèse historique et non pas dans un assemblage de textes autobiographiques.
Non, oui, j'ai vu plusieurs de vos titres sur le sujet. C'est vraiment que ça constitue sur la guerre de 14 quelque chose d'assez intéressant et exceptionnel.
Voilà, et puis le troisième titre qui avait été récusé par l'association que je quittais, c'était celui de Gabriel Comte, Le pays de Fort-Calquier, son lac, sa mer. C'est un titre assez moqueur, puisque le lac et la mer, on ne la voit plus. Mais en revanche, si on foule la roche qui porte la ville et qu'on sait la lire, on reconnaît le lac qu'il a occupé au début de l'ère tertiaire et puis la mer au milieu de l'ère tertiaire. Voilà, et c'est un livre que j'avais vraiment à cœur de faire parce que, d'une part, Gabriel Comte, qui est un vieil ecclésiastique de 94 ans maintenant, qui était un grand ami, un ami majeur de Pierre Martel, et ils étaient vraiment tout à fait passionnés l'un et l'autre de cette lecture du paysage provençal à travers sa géologie. Et d'autre part, parce que c'était un très bon pédagogue. Et que là-dessus, moi, j'avais dans ma formation, dès la sixième, cinquième, mais surtout à la fac en géographie, une grande considération pour la géologie comme outil de lecture. Et c'est pas une discipline compliquée, pourvu qu'on prenne le temps d'ouvrir les yeux.
Oui, et puis
et de bien voir.
Quand on a quelqu'un qui explique les choses de façon simple.
Et là, c'était le cas de Gabriel.
Alors, on écoute encore un peu de musique. Vous avez choisi Britain, un poème de Christopher Smart, chanté par Pierre Boudriot. Alors,
non,
on a parlé de Pierre Boudriot.
Non, il est chanté par un chœur, là, je ne sais pas lequel. C'est un chœur anglais.
D'accord, donc c'est pas lui.
Mais, je l'ai choisi parce que Philippe Boudriot nous a fait chanter cette pièce-là dans un concert anglais.
D'accord.
Et que je voulais au passage saluer la mémoire de ce musicien exceptionnel qui a formé des centaines de gens autour de Sisteron et dans les deux départements 04 et 05. Qui nous a quittés, hélas, trop tôt, mais qui, justement, lui aussi mettait la barre très haut au niveau qualité et arrivait à tenir son exigence, c'est-à-dire à faire monter des gens modestes comme moi et les autres à ce niveau très haut de qualité.
On écoute.
Oui, cette pièce de Britten, Rejoice in the Lamb, Britten est un auteur anglais du milieu du XXe siècle, a été construite autour d'un poème de Christopher Smart, qui est un auteur du milieu du XVIIIe siècle, poète. À l'époque, il était classé comme fou, il était interné, mais plutôt, il faut plutôt le considérer comme illuminé. Et il décrit, il fait la liste de tous les êtres vivants qui vont proclamer la gloire de Dieu. Très inspiré par les textes bibliques. Et donc, ce sont ces animaux qui sont mis en scène les uns après les autres dans les différentes pièces qui compose ce Rejoice in the Lamb.
Bon, et c'est ce qu'on écoute maintenant parce qu'on n'y était pas. On est sur Fréquence Mistral et dans l'émission Les Livres ont la Parole et on retrouve notre invité qui est Pierre Coste des éditions, c'est-à-dire. Alors, il nous a expliqué un petit peu tout son parcours. Ce que je voudrais aussi vous demander, c'est aujourd'hui dans une petite maison d'édition comme celle-ci, enfin petite par la taille mais grande par les projets qu'elle a et le travail qu'elle a mené, on en a parlé. C'est quoi le métier d'éditeur aujourd'hui? Vous le vivez ou vous le faites comment?
Alors déjà, je me considère comme un peu en marge de la maison d'édition, puisque c'est Emmanuel qui maintenant est le gérant, et c'est lui pour qui il faut essayer d'arriver à dégager le début du commencement d'un salaire très modeste. Mm-hmm. Moi, je suis payé par la caisse de retraite, donc c'est parfait.
D'accord.
Autrement, le métier pour le reste, c'est le même, c'est de faire l'intermédiaire entre des auteurs et des lecteurs et de construire un catalogue, un projet qui soit cohérent. En l'occurrence, on s'était donné ces objectifs de 3 collections ou 3,5 collections, suivant comment on les considère, un territoire et des hommes, des livres qui, d'une manière ou d'une autre, traitent d'un sujet par la géographie, l'histoire, l'ethnologie, l'archéologie, et les proposent à un public non spécialiste, 1000 mots chuchotés, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont raconté leur vie. Et la 3e collection s'appelle L'épaisseur du vent. On la définit comme des livres qui sont à la limite du témoignage et du geste littéraire. En l'occurrence, il y a 2 titres. Celui de Marie Chrysostome, qui est une ancienne bibliothécaire, ou encore bibliothécaire d'ailleurs, mais épouse d'un paysan bergère de derrière Manosque, de Saint-Martin-des-Eaux, qui se passionne pour le cirque. Et dès qu'il y a un cirque à proximité, elle laisse le troupeau à son mari et elle va voir le cirque. Et elle a écrit autour de ça une série de textes, soit des descriptions extrêmement pertinentes, très bien observées, soit des poèmes de toutes les étapes du cirque. Le cirque qui arrive, qui s'installe, qui se prépare, la ménagerie, le chapiteau est dressé, le spectacle, après le spectacle, on démonte, on repart. Ces textes-là remplissent un volume qui s'appelle « Le cercle enchanté » qui fait une centaine de pages. Et puis, je suis en train de finir la mise en page d'un volume qui s'appelle « Atlantide 14 » et publie les textes d'une pièce de théâtre qui sera créée à Avignon dans la cour des archives communales les 12 et 13 juin prochains. Atlantide 14, c'est cette espèce d'océan dans lequel se trouve plongé brusquement l'été 1914. Toutes ces villes, tous ces villages, toutes ces familles, toutes ces femmes notamment, qui se trouvent témoins de la guerre et néanmoins impuissantes par rapport à cette guerre, laquelle ne se situe que sur le quart nord-est de leur territoire. Et donc, vu d'Avignon, vu de Jonquière en l'occurrence, d'où sont issues les lettres qui ont servi de corpus de base pour l'écriture de cette pièce de théâtre par Corinne François de Neve, vraiment, il y avait un océan.
Oui. Des femmes qui n'ont pas eu beaucoup la parole sur cette guerre. On fait beaucoup parler les poilus, ça a été très à la mode, mais effectivement tous ceux qui ont côtoyé, enfin qui ont été en interaction dans leur vie avec ces hommes qui sont partis, on les a pas souvent entendus.
Et c'est justement l'intérêt de l'écriture théâtrale et d'une auteure qui s'empare de cette matière historique avec l'écriture littéraire, le geste artistique, de donner la parole à ces femmes. En l'occurrence, vont dialoguer pendant 1h30 l'épouse d'un des soldats qui sera tué dès la fin de l'été, sa sœur et une amie très proche qui ont trois regards différents et convergents et solidaires sur ce qu'elles sont en train de traverser. En l'occurrence, du printemps 1914 jusqu'à 1922.
Mmh. Oui, mais ça risque d'être assez intéressant.
Tout à fait.
Donc, c'est une pièce de théâtre qui sera, donc, vous le rappelez, jouée donc, à Avignon.
Qui sera jouée à Avignon, dans la cour des archives communales, rue Sainte-Luce. Si je me souviens bien, il faut aller regarder ça sur... Il faut chercher, c'est parce qu'on ne le trouve pas archives communales, ni sur le site de la mairie, ni nulle part. Il faut chercher sur Musée de la condition des soies, qui se trouve dans ces locaux des archives communales. Et comme ça, on peut avoir un plan. C'est au nord-est du Palais des Papes, donc de l'autre côté du Rocher des Dons, dans une petite rue. C'est un immeuble tout à fait charmant.
Alors, là, vous avez choisi une autre musique, c'est la musique iranienne. Alors, ça vous vient d'où, ça ?
Alors, nous arrivons donc avec ma femme Mireille et nos enfants en 81 à Fort-Calquier.
Fort-Calquier, oui.
Saint-Michel Observatoire, enfin, pour travailler autour de Salagon. Et une des premières rencontres, aussi bien des parents que des enfants au collège, c'est la famille Chemirani. Et le grand Jamshid Chemirani, qui est un joueur de zarb mondialement respecté, aussi respecté que modeste, lui-même discret, donc vraiment une personnalité très attachante, et qui va sous nos yeux former ses enfants les deux garçons, Bijan et Kevan. Plus tard, ce sont les filles chez Mirani, Mariam et Marjan, qui, à leur tour, diront « mais nous aussi, nous pouvons accéder à l'art et deviendront chanteuses ». Et puis d'autres élèves se forment autour de Jamshid, comme par exemple Mathias Autexier.
Ah oui.
Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est un disque d'Harmonia Mundi, qui à cette époque-là était encore à Saint-Michel Observatoire. Mmh. Et la passion de Bernard Coutaz, qu'il avait monté, qui se disait lui-même... peu connaisseur de la musique savante, du solfège et de ces choses-là, mais passionné par le timbre. On comprend très bien, à entendre la façon dont Jamshid joue du zarb et s'entoure de deux autres musiciens, que ces sons-là, ces timbres-là, n'ont plus que séduire Coutaz.
On écoute. Alors Pierre, tout à l'heure, vous avez cité les éditions Sabenza de la Valeia en Ubaï, avec laquelle vous avez travaillé. Vous en parlez plus souvent. Et c'est une association qui fait de l'édition et avec laquelle vous avez travaillé parce que ça vous semble important de faire des coéditions aussi. Donc ça a été le cas avec Alpes de Lumière et certaines maisons d'édition ou certaines associations.
Ce qui m'intéresse pour une association, donc des amateurs, c'est qu'elle se lance dans des projets d'édition avec une ambition professionnelle. La Sabens, ce que ça veut dire connaissance de la vallée, avait été créée en 1981 par une petite équipe avec comme pivot Pierre-Martin Charpenel. Et très rapidement, pour faire connaître la vallée, elle a rééditer des textes qui n'étaient plus disponibles.
Oui.
Ça a commencé par des polycopes, un recto verso, puis deux recto verso, puis un petit fascicule. Se sont ajoutés à ces réimpressions de textes disparus des travaux d'écriture. Mais tout ça était sous des formes très modestes au niveau fabrication. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans la vallée du Bail en 1987, Pierre-Martin Charpenel m'a demandé, puisque je savais faire de l'édition, de les conseiller dans ce domaine-là. Et donc, on est passé du polycope au livre imprimé. Peu à peu, s'est constitué une ligne éditoriale. Donc, d'un côté, j'avais cette collaboration à Mann ou à Fort-Calquier avec Alpes de Lumière sur les lignes éditoriales de Lumière. Mmh. Et d'autre part, à Barcelonnette sur ce catalogue qui aujourd'hui s'est étoffé. Il doit y avoir presque pas loin de 100 titres au catalogue de la Sabens. Ils ont une revue trimestrielle sur la vallée qui paraît depuis 10 ans et plus et qui n'a jamais coulé alors qu'on leur avait prédit que ça ne durait que 3 numéros. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine, qu'on puisse être dans un projet associatif et néanmoins avec ce niveau de qualité. Mmh. Et alors, un des moyens, évidemment, de la qualité, c'est la rencontre et ce sont les coéditions. Mmh. En l'occurrence, il y a au moins 2 titres que j'ai fait faire en coédition. Il y avait cette histoire du colporteur Esmieux, dont le manuscrit avait été perdu, oublié dans un placard mural d'une maison de Cogolin. Mmh. Et puis l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Jean-Joseph Esmieux l'avait retrouvé en faisant des travaux pour louer cette maison et avait eu la bonne idée, quand le musée de la Vallée a été créé, de m'écrire comme conservateur et de me dire « J'ai ce manuscrit, est-ce que ça vous intéresse ?» Et je lui ai répondu évidemment oui. Immédiatement « Oui, je suis allé le chercher près de Toulon. » Et c'était un travail tout à fait passionnant. Qu'on a dépouillé, transcrit. On a fait une transcription qui était d'ailleurs mise dans une orthographe moyenne actuelle et dans une ponctuation actuelle. Et on a envoyé la transcription et la photocopie du manuscrit d'Esmieux à 4 ou 5 historiens.
D'accord. Mmh.
Lesquels, de façon, donc Régis Bertrand, René Merle à Toulon, mmh. Philippe Martel à Montpellier, lesquels de façon unanime nous ont dit ne touchez rien à l'orthographe d'Esmieux, très maladroite. Nous, elle nous intéresse énormément. Elle est aussi précieuse pour nous que serait une bande magnétique de la voix d'Esmieux
oui.
lisant en 1820 son texte. Du coup, ça nous a tout de suite montré une dimension supplémentaire de ce travail et s'est engagée une longue démarche qui a duré 13 ans, en fait. C'est des choses qui se font, mmh. où il a fallu trouver des auteurs qui éclairent ce texte d'Esmieux. Donc il y a eu les linguistes, Philippe Martel, Jean-Yves Royer, il y a eu les historiens, Régis Bertrand a bien retrouvé dans les archives communales de Marseille Esmieux, là où il annonçait avoir été quand il était petit apprenti dans une boulangerie de la rue d'Aubagne. René Merle nous a fait un commentaire sur le caractère passionnant du témoignage enfoui d'Esmieux, parce qu'il avait échappé à toute reconstruction de l'histoire. Et quand il raconte la façon dont Toulon a été repris par la République et par le frère de Robespierre et les fusillades sur le Champ de Mars, même s'il est plutôt quelqu'un de conservateur, on ne peut pas l'accuser d'avoir travesti l'histoire. C'est vraiment un témoignage brut. Et donc, pour un historien, retrouver ça 2 siècles après, c'est majeur.
Mais c'était écrit en français ou en, en provençal?
C'est écrit en français, donc Esmieux au quotidien, dans son commerce. Lorsqu'il a écrit ça, il avait 60 ans passés et il n'était plus colporteur, il avait un commerce de bonneterie à Hyères. Au quotidien, à ses clients, il parlait en provençal. Et sans doute parlait-il un provençal dans lequel il y avait encore des petites réminiscences de son provençal de jeune Hubaïen, où il était né en 1780. Autrement, il était déjà habitué à la langue au provençal de Marseille, puis de la région de Toulon, où il vivait depuis l'âge de 13 ans. Mais voulant écrire ce texte, il l'a écrit dans une langue, on va dire, de communication. Donc il a choisi le français.
Oui, oui, oui.
De la même façon qu'aujourd'hui, un jeune écrirait, ou un moins jeune d'ailleurs, écrirait en anglais pour avoir tout de suite une langue internationale.
D'accord.
Et il se saisit de cette langue avec pas mal de maladresse. Et c'est ça qui intéresse évidemment énormément.
Je peux en lire un petit bout ?
Oui, tout à fait.
Alors ça s'appelle, alors le titre du livre c'est « La vie pénible et laborieuse du colporteur Esmieux ». Alors je l'ai ouvert comme ça, et comme je tire le tiroir, je ne vois plus mes doubles. J'appela mon frère et lui dis s'il les avait changés de place. Il me répondit n'y avoir pas touché. Mon pauvre père entend parler qu'il me manquait l'argent. Il crut que je n'en avais point apporté, mais mon frère lui assura que je lui avais fait voir. Nous balayâmes toute la maison sans pouvoir les trouver. Alors mon père me donna 10 écus pour payer les chemises à ma cousine. Cette perte me mit d'une mélancolie sans égale. Je partis pour la ville sans vouloir rien prendre et je coucha à la ville. Je ne fus de retour que le dimanche au soir et le lundi suivant je fis mes adieux à mes pères, mères qu'à mes frères. Voilà, c'est étonnant effectivement. Et c'est assez facilement compréhensible.
Alors, on n'est pas dans le lettre à lettre complet d'Esmieux, dont on a donné un petit échantillon au début du livre. On a fait un long travail avec Jean-Yves Royer, qui nous a proposé 8 versions du lettre à lettre complet au français académique, avec tous les intermédiaires. Et on a convenu de s'arrêter à une version assez proche du lettre à lettre complet, de façon à ce que ce soit facilement lisible, mais néanmoins que ça respecte au mieux sa façon notamment de faire sonner les voyelles.
Oui. J'ai pas fait sur les accents. Voilà. Il y a des accents sur certaines voyelles.
Voilà.
Qui sont intéressants.
Et alors là, ce passage où donc il a 20 ans, il a quitté la vallée à l'âge de 11 ans. Ça fait 9 ans qu'il n'était pas rentré. Et il revient, il est déjà colporteur, donc il a déjà cette activité professionnelle qui est celle de bien des cadets de famille de la vallée de l'Ubaye, mais loin de sa famille, il revient, il amène de l'argent, il le met dans le coffre familial, et quand il revient, l'argent n'y est plus. Et pour lui, c'est une trahison très grande, mais pour ses frères, on peut imaginer que, puisqu'il revient, ce cadet, il est même benjamin de famille, il aurait dû ramener l'argent. Parce que tout le système de l'économie du colportage ubaïen est basé là-dessus. C'est-à-dire que la famille donne de l'argent à un jeune, l'envoie faire du commerce de tissus, et quand il revient, il doit ramener l'argent qui sera réintégré au capital villageois et repartira. C'est ce que Laurence Fontaine, l'historienne du colportage, appelle la banque au village. Mais Esmieux, à ce moment-là, est passé dans un autre univers. Il est dans cet univers de la côte. En fait, à cheval d'ailleurs, parce que son initiation, malgré tout, au colportage, il l'a fait deux ans plus tôt, grâce à un alpin qu'il avait rencontré sur le marché de Toulon. Et avec qui, sous la houlette duquel il fait une première tournée. Et à l'issue de cette tournée, il retourne vers ce vieil alpin. Il lui montre la réussite de sa tournée. Il lui donne l'argent. Donc, cet argent qu'il ne veut pas donner à ses frères, il l'a donné plutôt à ce vieil alpin. Et il se sert contre lui comme un fils l'aurait fait avec son père.
D'accord. Alors, ce que je voulais revenir, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent dans votre discours, c'est que vous parlez d'exigence et de qualité, et vous en aviez parlé aussi à propos de votre apprentissage avec ce que vous avez apporté Hubert Nissen. C'est important pour vous, dans l'édition, d'avoir un niveau d'exigence. Vous en parliez aussi pour les coéditions, le soutien que vous apportez, le conseil que vous apportez à des associations comme Sabensa de la Valleille. Et pour vous, c'est quelque chose de majeur dans l'édition.
Je trouve rien de plus désolant de lire un livre et à la fin de ce livre se dire, soit si c'est un livre scientifique, enfin se prétendant scientifique, j'ai rien appris, soit se dire si c'est un livre se prétendant littéraire, bon, c'était pas mal, mais pas plus que ça. Alors, de là à transposer ça en réussite à tous les livres,
oui, non, mais
c'est
non,
autre
mais
chose. Vous... Il y a des fois où on est plus content de certains livres que d'autres. Mais au moins se donner ça comme base d'exigence.
Mais vous mettez la barre haut, parce que vous parliez, par exemple, en parlant de la vie pénible et laborieuse du colporteur Esmieux, c'est 13 années de travail. Mais pour certains livres, c'est parfois plus. Moi, je parle d'un livre que j'ai longtemps attendu, que vous venez de publier, c'est La vallée du Verdon avant le lac. Là. Hein, c'est des années de... Voilà, l'exigence est telle que vous pouvez mettre des années à produire un livre.
Celui-là, c'est un livre carrément déraisonnable, puisque oui. quand Lucette Poncin m'en a parlé en 1987, alors que dans sa tête, ce n'était qu'un projet, je lui ai dit immédiatement... oui, ça m'intéresse, cette idée de parler d'une vallée désormais engloutie, d'en parler de façon globale, sous tous ses aspects, relief, paysage, agriculture, torrent, etc. Ça allait vraiment dans les préoccupations et d'Alpes de Lumière et des sujets qui m'intéressent. Ce qu'il y avait en plus dans ce que promettait Lucette, et qu'elle a tenu, c'est qu'il y aurait du texte et il y aurait des images, puisque oui. La connaissance, le souvenir qu'elle et les gens autour d'elle avaient conservé de la vallée du Bail, passait aussi
du Verdon.
Passait aussi par des relevés d'architecture que son mari avait fait de toutes les bastides et cabanons du fond de la vallée, par des amis artistes qui avaient transposé dans des encres, dans des eaux fortes, des paysages de la vallée, par des photographies, soit d'amateurs, des photographies familiales, soit des photographies de repérage, soit des photographies plus élaborées comme celles que l'inventaire a pu faire in extremis pendant l'été 1973, enfin pendant l'année 1973, et que donc ça annonçait un livre à plusieurs voix. Et que d'un point de vue éditorial, c'est toujours très, très excitant d'avoir un tel projet.
C'est un livre absolument magnifique. C'est vrai que c'est une espèce de pavé comme ça, mais on se dit qu'on tient un trésor dans les mains, quoi. C'est un livre qui est lourd, il y a tout dedans. Il y a énormément de choses. On apprend énormément de choses. Et c'est effectivement plein d'illustrations qui fait que c'est pas du tout un livre savant où quand on ouvre on se dit oulala, si je suis pas un spécialiste je vais m'embêter, alors que là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un livre de plaisir, un livre d'images presque, et puis avec beaucoup de textes qui sont accessibles, voilà, on parlait de Lucette, c'est Lucette Poncin et son mari, voilà. Et puis je trouve que c'est un livre magique pour les gens qui connaissent cette région, qui y ont vécu. Et alors Lucette me disait l'autre jour qu'elle, en fait, c'est le livre d'une vie, parce que elle pense qu'elle a commencé à préparer ça en 1974.
Certainement. Ouais. Et peut-être même plus, puisque à côté de ses recherches écrites en archives, il y a en amont des discussions, des soirées de discussion et des notes qu'elle en a prises à rentrer chez elle avec des anciens de Sainte-Croix, oui. À commencer par Florin Roux, qui avait vendu à Jacques une ruine et avec qui s'était lié d'amitié. Et donc, ils ont appris comme ça énormément de choses qui ont été ensuite confirmées et enrichies par les sources écrites.
Mmh. Bah, faut dire que c'est les gens qui ont la curiosité. Elle est historienne et géographe en même temps. Donc c'est les gens qui sont un peu aussi des buvards ou des éponges de ce qu'il y a autour d'eux.
Et il y a un an et demi ou deux ans, on était en face de cet énorme liasse de papier. Mmh. Et moi, comme éditeur, j'étais un peu inquiet en me disant jamais on n'y arrivera au niveau matériel. Mmh. Et Lucette Poncin me disait mais de toute façon, personne d'autre ne l'écrira. Mmh. Et devant un tel argument, je ne pouvais qu'être incité à aller jusqu'au bout de la promesse. Et on a fait, il y a trois semaines, avec Lucette Poncin, une tournée de signatures chez des libraires, et à Sainte-Croix. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est l'accueil des gens qui avaient déjà le livre en main et qui le lisaient, qui en envisageaient chacun à sa manière les qualités.
Soit
regarder les images, soit regarder les textes, soit regarder les deux. Certains le lisaient chapitre par chapitre, en désordre. D'autres l'avaient lu en entier, du début à la fin. Donc, on a eu confirmation qu'il fallait, pour Lucette, avoir écrit ce livre. Et pour nous, édition, c'est-à-dire l'avoir édité.
C'est vrai qu'on l'ouvre n'importe où. Moi, je l'ouvre comme un dictionnaire, vous savez, et puis vous trouvez, hop, et il y a tout de suite quelque chose dans lequel vous partez, quoi. Parce qu'il y a une image, mais vous rentrez dans un texte et vous partez. Et après, on peut revenir à beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il est accessible de plein de façons différentes. Alors, on va peut-être écouter un petit peu encore de musique. Alors, qu'est-ce qu'on écoute là? Des chants provençaux?
Là, j'avais proposé justement un texte avec trois musiciens, René Sette, Vaillant et Bijan Chemirani. Donc, Bijan est le deuxième fils de Jamshid, donc un de ses excellents élèves. Et René Sette est un niçois, maçon. Passionné, qui a une voix magnifique, et passionné de musique et de culture provençale, et par ailleurs passionné de bâti traditionnel.
Oui.
Il est formateur à l'école d'Avignon du patrimoine.
Il y a deux excellents livres.
Il est expert en pierre sèche. Oui. Et j'ai eu l'occasion. Alors, donc, René fait partie de ces rencontres aussi, à partir de Fort-Calquier et Mann. J'ai eu l'occasion plus tard d'écrire avec lui pour les éditions Le Bec en l'air. Un gros livre sur la pierre sèche.
Je profite puisque je suis à la radio et j'avais ces deux. Il y a deux volumes.
Sur les calades.
Les calades et les murs en pierre sèche. Et j'avais ces deux livres. Je l'ai prêté à quelqu'un. Je me rappelle plus qui c'est. Alors s'il m'entend, voilà, qui me fascine. Donc on écoute. Donc ce sont les chants provençaux. S'appellent les grâces de moissonniers.
Les grâces des moissonniers. Des moissonneurs. Pardon.
Des moissonneurs.
Maria, adorando Quand ben façon, nos trimestres, et tout le monde s'escape d'ici, et tout à la compagnie, rende grâce à Dieu, Jésus-Christ, adorende votre amen, Jésus et Maria, adorende votre amen, Jésus et nous sans sacrament. Nous demandons belle excuse, nous demandons ben pardon, c'est les sangs qui s'expliquent, ça prend bien les cadeaux. Adorende votre amen, Jésus et Maria, adorende votre amen, Jésus et nous sans sacrament. Avertir notre maître que face à des vantaillots et c'est la maître sauvena qui lui donnera au bâton. Adorende votre amen, Jésus et Maria, adorende votre amen, Jésus et nous sans sacrament. Arne serie justici, ne serie venue razo, che non fessia sin povere, come ne vendo cano. Adorende vuttamen, Gesù a me Maria, adorende vuttamen, Gesù e lui san sacramen.
On est bien sur Fréquence Mistral Digne et donc dans l'émission Les Livres ont la parole et on retrouve Pierre Coste, éditeur de la maison d'édition, c'est-à-dire. Alors je voulais vous poser une question. Justement, on a parlé d'un peu des différents métiers dans lesquels l'édition se retrouve, hein, aussi bien l'aide à l'écriture, la mise en page, toutes ces choses pour lesquelles vous avez une exigence de qualité assez élevée. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure à propos du livre de Lucette Poncin, de l'accompagnement aussi de vos auteurs. C'est-à-dire, une fois que le livre est sorti, on est au milieu du guet. Donc, comment vous voyez aussi, comme éditeur, ce métier d'accompagner vos auteurs, de faire des tournées pour que le livre soit reçu par les lecteurs?
Ça, c'est le... Le livre n'a de sens que s'y trouvent des lecteurs.
Oui.
Les lecteurs, on va les trouver soit de façon anonyme par les libraires ou par la vente directe, mais c'est malgré tout l'accès aux libraires qui reste aujourd'hui en France la clé pour trouver ce lectorat-là. C'est la question de la diffusion. Pour un petit éditeur, c'est difficile d'être identifié, d'avoir un diffuseur qui vous soutient et des libraires qui vous acceptent. Et puis, il y a la solution d'aller voir les lecteurs directement. Là, dans le cas précis de ce livre sur la vallée du Verdon, c'est relativement possible d'aller là où vont être le gros de ces lecteurs. C'est-à-dire que ceux qui toute l'année habitent autour de cette vallée du Verdon, ou ceux qui y viennent l'été. Et en l'occurrence, la solution, c'est ça. C'est des tournées, soit relativement classiques de signature, soit chez les libraires, où on en a fait une dans l'ancienne école de Sainte-Croix,
oui.
Soit des rencontres plus approfondies. On a eu la chance, par exemple... de passer une après-midi, deux heures, avec les écoliers du CM1 de Riez.
D'accord.
Qui étaient tout à fait passionnés. Ils nous ont même dit qu'ils étaient très honorés que l'auteur et l'éditeur viennent les voir. Ils avaient parfaitement préparé leurs questions. Ça a été un moment très chaleureux. Est très rassurant, justement, aussi bien pour l'auteur que pour l'éditeur. Et là, Lucette va recommencer ça fin juin, début juillet, de faire des conférences, des rencontres en s'appuyant notamment sur le réseau des bibliothèques.
D'accord. Voilà, donc le livre, il faut le porter. Hein. Celui-là, il est lourd en particulier.
Voilà.
Mais il faut le porter. Et... Alors, c'est plus facile, effectivement, quand il y a, je dirais, une zone géographique un peu facile à identifier. Mais pour d'autres livres, comment vous portez les livres? Alors, vous dites, bon, il y a les libraires, mais vous les portez chez les libraires ou c'est le diffuseur qui... Vous pensez que le diffuseur peut faire son travail?
Alors, dans l'idéal, on aimerait que ce soit le diffuseur. Mmh. Le diffuseur soit beaucoup d'éditeurs à diffuser et donc il diffuse avec un peu moins d'enthousiasme chacun de ces 50, 100, 200 petits éditeurs. Mmh. Soit il y en a peu et dans ce cas-là, il a du mal à financer sa propre activité.
Voilà. Mmh.
Et c'est ce qui nous est arrivé deux fois coup sur coup, où notre premier diffuseur, Midi Diffusion, puis notre deuxième, Mariani Pinelli, ont fermé la porte. Et donc, nous tentons une troisième tentative avec un diffuseur qui a une plus large aire géographique, qui est le comptoir du livre, à Toulouse. Nous allons voir ce que ça va donner. Cette fois, prudemment, nous avons fait ce qu'on appelle un contrat non exclusif, c'est-à-dire que nous avons le droit de mettre nous-mêmes en place des livres directement, mais nous nous rendons compte que c'est pas nécessairement d'une pertinence économique très grande. C'est-à-dire que si je mets en place 10 livres chez un libraire, c'est très bien. Si j'en mets en place un et que ça me bouffe la moitié d'une après-midi, il vaut mieux que je n'aimerais pas la poste.
Oui, et puis les déplacements, etc.
Voilà. Mais c'est là qu'est la difficulté. On va dire la difficulté. Parce qu'actuellement, pour des petits éditeurs comme nous, c'est difficile.
Oui, parce que les lecteurs ont toujours l'impression que, à l'image de ce qui se dit dans les grands médias, les livres sont portés par la presse, la télé, les pivots et autres de ces enfants, alors que c'est pas, quand on est petit éditeur, en région en plus, c'est pas facile.
Alors, la télé à laquelle on pense, la une, la deux, faut pas y compter. Les grandes radios, il faudrait monter des plans de partenariat. Il faudrait peut-être d'ailleurs en parler une fois entre petits éditeurs.
Oui.
parce qu'après tout, un éditeur tout seul va pas séduire une grande radio comme France Culture, a fortiori France Inter ou France Info. Un collectif original portant une manifestation d'éditeurs pourrait. La semaine dernière, on chantait à Aix avec Marie-Hélène Coulon, avec Opus 13, des chants révolutionnaires en haut du cours Mirabeau pour la semaine de l'éloquence, organisée par des jeunes avocats et des jeunes passionnés d'éloquence, d'Aix, Profil, Sciences Po. Ils s'étaient décrochés un partenariat de France Inter, de France Info, Jean Lebrun, qui fait la chronique d'histoire de France Inter, intervenait après nous sur la scène. Et j'avoue que j'étais un peu jaloux en me disant, mais pourquoi nous ne savons pas faire ça? Donc, pour le moment, c'est en suspens, mais c'est une question que j'aimerais creuser.
D'accord. Alors, justement, il y a beaucoup de petits éditeurs. Hein, dans cette région, on est assez nombreux. Et finalement, il y a eu quand même plusieurs tentatives de regroupement, mais ça ne semble pas être solide et porter ses fruits. Vous expliquez ça comment ?
Alors, on peut raconter... moi, je peux raconter une des tentatives, qui est celle des éditeurs autour de Fort-Calquier, qui, à la fin des années 2000, donc en 2007-2008, en avaient marre de faire leurs livres chacun dans sa cuisine. Et on dit, nous pouvons ne pas sacrifier notre sacro-sainte indépendance et néanmoins partager des locaux... notre service commun. Photocopieuse, trucs de ce genre-là. Mmh. Et donc, nous avons élaboré un rêve d'une maison où nous serions tous ensemble. Mmh. Nous avons soumis ce rêve à la communauté de communes. Et le président, Christophe Castaner, à l'époque, nous a dit « Banco ». Donc, mettez-nous ça noir sur blanc. Donc, on a mis ça noir sur blanc. Et à partir de ce cahier des charges, la communauté de communes a fait une enquête, a interrogé les différents acteurs, a monté un projet, a trouvé les financements et a construit dans les anciens appartements des gendarmes de Fort-Calquier une très belle maison des métiers du livre.
Oui.
Avec 1100 mètres carrés, 500 mètres carrés en locaux communs, bon, les circulations, évidemment, les toilettes, mais le stock, les archives, une cafétéria et sa terrasse, des salles d'exposition, des salles de réunion, et 600 mètres carrés de locaux privatifs, donc des bureaux, grands et petits. Nous nous sommes installés là. Mais la réalité économique nous rattrape, c'est-à-dire que même avec des loyers raisonnables, si on considère le cours du loyer commercial ordinaire, ben, ça nous fait lourd à porter. Ce qui fait que peu à peu, nous avons réduit notre surface et maintenant nous sommes trois dans le plus petit des bureaux. Et alors dans les autres, il y a d'autres métiers connexes, graphistes, photograveurs, etc. Mais malgré tout, la maison n'est pas aussi remplie que dans notre rêve.
D'accord.
Alors, le rêve n'est pas complètement perdu dans la mesure où la communauté de communes est en train d'étudier l'installation de la médiathèque dans trois grands locaux superposés de cet immeuble, ce qui fait que le livre continuera à être la vocation de l'immeuble. Mais malgré tout, nous nous rendons compte que nous retombons un peu à notre point initial, c'est-à-dire le plus raisonnable serait de faire les livres dans notre cuisine.
Oui.
Nous n'y renonçons pas pour autant, parce que être tous ensemble est quelque chose de très fructueux. Déjeuner tous ensemble à midi, il y a des tas d'idées qui circulent, des informations, des coopérations qui se font. Voilà. Et lundi prochain, nous devons d'ailleurs tous aller marcher sur le plateau de Ganagobi, les gens de la Maison des métiers du livre de Fort-Calquier. Bon, en plus, nous sommes quand même assez fiers parce que dans la région, c'est avec une petite esquisse à Arles, mais que nous jugeons depuis Fort-Calquier beaucoup plus modeste que la nôtre, le seul lieu qui offre ce genre d'outils.
Bon, eh ben, ça fait une belle conclusion, en tout cas, pleine d'espoir, et avec un lieu, mais aussi des volontés. Et peut-être qu'il faudrait un peu élargir ça, je sais pas. Oui, moi, je trouve qu'à force de... On est souvent, je parle maintenant en tant qu'éditeur, hein, donc c'est vrai qu'on est beaucoup chacun dans sa cuisine, et on a pas mal de choses à échanger. Alors, on se rend compte sur un certain nombre de manifestations, puis on dit, tiens, il a une bonne idée, il faudrait qu'on en parle, et finalement, on est pris par le quotidien, et on n'en parle pas forcément. Peut-être qu'on faudrait qu'on aille marcher plus nombreux encore sur le plateau de Ganagobi.
Tout à fait. Nous avions monté en même temps que ce cahier des charges qui aboutit à la maison une association éditée en Haute-Provence. Et actuellement, elle est quand même en grand sommeil. Et peut-être faudrait-il que nous renoncions aux hôtes et que nous fassions un édité en Provence. Et que nous retournions voir tous les petits éditeurs qui, de Nice à Arles et de Martigues à Briançon, font la même chose et voir qu'est-ce que nous pourrions justement mettre en commun.
Chiche. Voilà.
Chiche,
d'accord. On va en rester là, Pierre Cosse, merci donc de la maison d'édition, c'est-à-dire, on écoutera encore un petit morceau de musique, après on passera à la partie que j'appelle droit d'auteur, qui est la partie un peu pub pour les éditions Parole, mais pour parler d'une manifestation où on va retrouver aussi les éditions, c'est-à-dire, qui aura lieu début juin. Alors, on écoute les voix de la Méditerranée de l'ensemble Parnasse du Marais. Pierre, c'est quoi ?
Alors là, c'est un ensemble de musiciens qui sont basés plutôt en Provence, autour de Brigitte Tramier, qui est une claveciniste. Je l'ai cité parce que s'y trouve d'une part Lucille Pessé, qui est une excellente soprano, qui a été formée au CNIPAL, qui est ce centre marseillais de l'art lyrique, de formation à l'art lyrique, qui a fonctionné pendant une quinzaine d'années, qui a formé des tas de talents, dont Lucille. Et d'autre part, en percussion, Mathias Autexier, qui est encore un élève de Gémirani.
D'accord. Eh bien, on écoute. Donc, on est à la fin de l'émission Les livres ont la parole sur Fréquence Mistral Digne. Voilà. Et je voulais donc, on est passé dans la petite partie consacrée au travail des éditions Parole que je représente. Donc, on retrouvera quand même Pierre Coste et la maison d'édition, c'est-à-dire à cette manifestation dont je parlais, qui est la fête du livre à Ops, donc dans le Var, dans le Haut-Var. Qui a lieu les 5, 6 et 7 juin. Alors c'est une manifestation qui a été créée l'année dernière en coopération. C'est un travail assez coopératif avec d'une part la bibliothèque qui est pilote dans cette affaire, la bibliothèque de Ops, la librairie Caractère Libre qui est avec Cédric qui est une librairie très courageuse et qui a fait qui a commencé il y a quelques années et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et puis un certain nombre de petits éditeurs qui viennent un peu partout et qu'on essaye de faire venir de partout pour avoir une certaine diversité. Voilà. Et puis comme partenaire aussi, il y a le parc naturel régional du Verdon et évidemment la commune d'Ops et l'office de tourisme d'Ops. Voilà, donc le 5, qui est le vendredi, c'est la journée qui est réservée aux écoles. Donc il y a la possibilité pour les écoles de venir à la fois à la bibliothèque qui est ouverte toute la journée. Il y aura, comme cette année, le thème, c'est un petit peu, on l'a mis un parfum de Japon, puisqu'on a un théâtre de papier japonais qui est le Kamishibai. Ensuite, il y a un atelier de fabrication de feuilles de papier avec un ancien enseignant de l'école Estienne, qui est Jean-Louis Estève, et qui déjà l'année dernière était venu nous montrer comment on fabrique du papier. C'est un spécialiste de la fabrication de papier. On a des contes, hein, et puis on a une exposition qui s'appelle « Comment on est un livre ?» où on montre effectivement... aux enfants tout le travail qui est mené depuis, je dirais, l'auteur jusqu'à la reliure d'un livre. Sinon, le samedi et le dimanche, on aura un salon plus classique avec un certain nombre, une vingtaine de petits éditeurs et les auteurs qui pourront venir. Et donc, il y aura aussi des rencontres. Il y aura à nouveau le théâtre, l'exposition, le théâtre de papier japonais Kamishibai, des rencontres avec des auteurs, des contes, un spectacle le soir qui est la veillée du crieur du Verdon, hein, qui est le crieur qui travaille sur le parc naturel régional du Verdon. Et puis, on aura aussi l'après-midi l'association Payer Jean du Verdon, qui nous emmèneront dans le village pour découvrir les lieux du soulèvement républicain de 1851, parce que Hobbs est un haut lieu de cet endroit. On aura aussi un atelier de cerf-volant avec Envolée d'encre, qui est un atelier d'écriture et de cerf-volant de Christine Ricat, que Pierre connaît peut-être déjà, et qui fera écrire des livres, des mots, et qui les enverra dans le ciel avec des cerfs-volants, donc on se rapproche beaucoup du parfum du Japon. Et puis on aura aussi une conférence de Jean-Michel de Sivirine, qui est le fils du lieutenant Vallier, qui a dirigé le maquis du Haut-Var, le maquis de Canjuers. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi, parce que c'est vrai que ce livre, on a toute l'histoire du maquis, mais on ne sait pas ce que sont devenus les maquisards après. Et là, donc Jean-Michel Sivirine nous parlera de l'après, ce que sont devenus ces hommes qui ont combattu, qui ont libéré Gien et qui sont engagés dans la première division française libre, et qui ont fini après une boucle assez importante, qui sont revenus dans la région, dans le Haut-Pays niçois, parce qu'ils ont participé à la bataille d'Authion, qui a été une des dernières batailles contre les Allemands, mais qui a été une bataille assez dure, quoi. Voilà. Donc vendredi, samedi, dimanche, donc 5, 6 et 7 juin, et on retrouvera les éditions, c'est-à-dire, et Pierre Cosse peut-être. Oui, non, Pierre?
En tout cas, les éditions, c'est-à-dire.
Les éditions, c'est-à-dire. Voilà. Bon, on arrive au bout de... On aurait pu parler encore de plein de choses, mais on a appris vraiment beaucoup de choses intéressantes avec Pierre, qui nous a fait rêver et montré de quelle façon on devient éditeur. Moi qui suis devenu éditeur un petit peu par accident, je dois dire que la période Alpes de Lumière m'a beaucoup inspiré, quoi. Je veux dire, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé tout de suite tout ce travail qui avait été mené. Et voilà, je pense que ça m'a été utile pour devenir éditeur, même si je n'avais pas... forcément envie, mais je veux dire, c'est pour moi une référence et j'ai toujours ma petite collection de livres édités par Alpes Lumière. Voilà, on va en rester là. Pierre, à moins que vous vouliez dire une dernière chose.
Juste, il aurait fallu encore une heure et demie,
oui,
pour parler des rencontres typographiques de Lure qui ont été et qui sont un ferment de formation et d'exigence dans la qualité typographique et plus largement dans la communication écrite, qui ont lieu tous les fins août à l'URSS, mais qui également travaillent toute l'année et surtout forment un réseau de compétences remarquables.
D'accord, ben on pourra à l'occasion, mais on peut l'annoncer aussi sur Fréquence Mistral, il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci Odile, merci Pierre, et puis on se retrouve dans un mois à peu près, environ.
Eh bien oui,
on n'a pas choisi de date, mais on l'a choisi.
C'est quand tu veux. Oui. Normalement, c'est tous les deuxièmes mercredis du mois, oui, mais il y a eu quelques petits changements. Oui. On est adaptable.
On n'a qu'à dire deuxième mercredi du mois.
Deuxième mercredi du mois, donc ça sera au mois de juin. Ce sera mi-juin.
Oui, voilà.
Déjà, voilà.
Je sais pas le combien, mais on finira en regardant sur.
Tu veux que je te dise, allez, on va le dire.
Si on a le temps.
Mercredi, le deuxième mercredi de juin, eh bien, c'est le 10.
Eh bien, on se retrouve
voilà,
le 10.
Le 10 juin à 16h30.
Voilà. Merci Pierre Coste des éditions, c'est-à-dire, et à bientôt.
Merci. Au revoir. Jean.